un joujou extra.
Ah oui, c'est ça, cette semaine, ça a vraiment fait des cracks partout, car il faut appeler un crack. Il y a un crack de la tech, bien sûr, surtout de la dope tech, de ces licornes chimériques. Alors, je sais pas si licorne chimérique, c'est pas un pléonasme. Crack de certaines monnaies, livre sterling, yen, yuan, euro aussi. Crack obligataire avec l'envolée des taux d'intérêt. Nous sommes passés, en fait, en quelques semaines, finalement, quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé d'un monde dans lequel on s'était habitué à des taux zéro ou négatifs en pensant que ça serait toujours le cas, à un monde où les taux d'intérêt sont revenus à des niveaux, j'ai envie de dire, je vais laisser bien évidemment mes invités réagir, à des niveaux normaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'inflation, avec la croissance, avec les déficits, avec la dette, avoir des taux d'intérêt à 2,5, 3, 4%, bah c'est tout à fait normal. Ce qui n'était pas normal, c'était d'avoir des taux d'intérêt zéro. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je me trompe, Anna Boata?
Bah c'est toute la question est là. Quel est le taux d'équilibre qu'on devrait avoir pour pas pousser les économies en récession? Parce que pourquoi le mois de septembre était mauvais? C'est parce qu'on l'a commencé avec le scénario de fin d'approvisionnement du gaz russe et de la récession qu'on attend en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et donc la question se pose parce que les conditions monétaires et financières commencent à se durcir très vite. On a eu le cas anglais qu'on va discuter, j'en suis sûre, avec des crises de liquidité très violentes. Et donc, on voit bien que le système est bien trop fragile pour augmenter les taux trop rapidement. Et là, on parle de liquidité du marché obligataire, mais on peut aussi penser aux crises immobilières.
Évidemment.
Et donc, du coup,
qui n'a pas commencé.
Qui n'a pas encore commencé, mais qui donne déjà des signes de faiblesse aux États-Unis et probablement aussi au Royaume-Uni si vraiment la Banque d'Angleterre se mettait à augmenter les taux à 4% d'ici la fin de l'année ou au-delà.
Rappelons juste, excusez-moi, je vous interromps, que les taux hypothécaires aux États-Unis sont passés de 3%, c'est-à-dire le taux d'emprunt moyen des ménages pour acheter un bien immobilier, à 6,5%.
Oui. Exactement. Probablement que la sensibilité est moindre en Europe. Donc, probablement que si on est à 4% en Angleterre à la fin de l'année, on sera à 5, 6. Mais bon, et puis on a quand même une bonne nouvelle, une petite parenthèse, c'est que depuis Covid.
Quand même une bonne nouvelle.
C'est depuis Covid, on a quand même transformé, on a été intelligent en tant qu'emprunteur de transformer 80% de ses prêts à taux fixe. Donc, c'est quand même. Ça va être un problème, mais pas très, très court terme.
C'est un problème pour les gens qui vont emprunter, mais pas forcément pour les gens.
Ceux qui. Oui, en termes de vraiment disponibilité et de pouvoir d'achat. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde les modèles, on se pose la question, est-ce que les modèles sont encore vraiment d'actualité sur ce taux d'équilibre? On est plutôt à 3% aux États-Unis, 2% en Europe, et clairement,
alors, attendez,
on va aller
précis,
au-delà.
3%, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt,
le taux d'intérêt
de référence d'emprunt d'État à 10 ans ou le taux d'intérêt court terme?
Taux d'intérêt directeur, donc
qui
va surtout bouger le court terme, ouais, okay. Aux États-Unis. Donc 3%, donc on va aller au-delà de 3%,
c'est on sûr. Attend 4 à 4,5%, c'est
à
ce que dit la
l'année.
Fed, en fait.
Exactement, à la fin de l'année, on attend ça, et probablement qu'on aura ça. La question se posera sur 2023, jusqu'à où on peut peut-être le baisser, voire le garder. Parce qu'on sait qu'il est au-delà du taux d'équilibre. Donc ça veut dire qu'en fait, la récession est à nos portes. Et donc à quel point le système va pouvoir vraiment survivre avec ce 4%, voire plus de taux d'intérêt, c'est une vraie question dans un environnement de dette excessive, qu'elle soit sur les États, mais aussi sur les entreprises.
Ce 4%, 4,5% aux États-Unis, ça, c'est combien en Europe? En zone euro, ça serait quoi?
2,5%, 3%? 2 plutôt. Nous, on est plutôt sur du 2% sur
d'accord.
Le taux réfi, qui est en fait en ligne à peu près avec le taux neutre, taux d'équilibre, un petit peu au-dessus. Et donc, la question se pose aujourd'hui, exactement quand on regarde les craintes de stabilité financière, à quel moment, en fait, il y aura un pivot et on va commencer à réfléchir à peut-être baisser les taux. Et si on ne baisse pas les taux, à quel moment on va revenir sur des mesures de liquidité, du quantitative easing? Parce que oui, on augmente les taux à court terme, mais à long terme, on ne se permet pas trop de busculer la courbe de taux et donc de causer des problèmes de stabilité financière.
Alors ça, Anna, c'est peut-être un peu le scénario, c'est mon scénario, hein, mais c'est le scénario un peu optimiste qui consiste à dire avec cette remontée des taux, ça sera suffisant pour casser l'inflation, éventuellement avoir une récession qui sera une récession pas trop profonde. Est-ce que c'est votre scénario, Emmanuel ?
Oui, plutôt dans le sens où moi, il y a rien de dans tout ce qu'on vit. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est que il y a pas de dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une succession de chocs qui ont des répliques. et qui provoque des conséquences en cascade. Mais à chaque fois qu'on a un choc, ce choc ébranle tout un tas de choses, mais il n'y a pas de dynamique. Sur l'inflation, il n'y a pas de dynamique. Vous avez un choc qui vient des deux crises qu'on a connues, c'est-à-dire crise sanitaire, crise énergétique et géopolitique. Et donc, on voit qu'on est en train de monter des marches à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez eu ces deux chocs, ça a provoqué rupture d'approvisionnement, etc. On a eu donc du coup un choc inflationniste. Ce choc inflationniste, il va avoir une violente réplique. Il a une violente réplique sur les taux banques centrales. Il a une violente réplique sur les marchés. Il va avoir une violente réplique sur les salaires. Donc on va avoir une succession de chocs comme ça qui vont se produire. Mais en aucun cas, on est dans un monde qui rentre structurellement dans une période de forte inflation. Donc
d'accord. Donc vous dites qu'on va avoir une inflation qui a un moment.
On a et puis surtout ce qui est aussi frappant, c'est que ces deux chocs, encore une fois, Covid, guerre, ont impacté des trajectoires qui étaient des trajectoires de fond de l'économie mondiale, transition écologique, transition technologique, etc. Et qu'on a une accélération de toutes ces transformations. Je crois que c'est la vitesse aussi qui nous surprend. Les enchaînements, je suis pas sûr qu'ils soient d'une nouveauté implacable, mais ils sont d'une brutalité et d'une violence qui sont sans précédent. Parce que vous êtes gentil avec vos niveaux de taux d'intérêt, mais si vous recomparez avec le niveau des années 80, quand vous vous effrayez, quand on a 8% d'inflation, non, et alors, qu'on a des taux qui montent à 3 ou 4%.
J'arrête non, tout de suite, parce que
on va,
à cette émission-là,
on va se calmer, c'est
à
pas...
cette émission, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, je posais la question aux économistes, comment se fait-il qu'un pays qui ait une inflation de 1,5 ou 2%, une croissance de 1,5 ou 2%, une dette de 100% du PIB et des taux à zéro, et on m'expliquait que c'était normal parce que c'était les banques centrales.
Non mais Marc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pour ça que je dis que c'est moins grave aussi qu'à l'époque, parce que on n'est pas, encore une fois, dans un cycle inflationniste majeur.
Donc, ça c'est intéressant.
Après, oui.
C'est-à-dire, vous considérez qu'on est dans un choc conjoncturel et pas structurel.
Je dis qu'on vit une série de chocs qui vont avoir des répercussions, on ne les a pas encore toutes vues, et qu'après on va rentrer dans un nouvel équilibre mondial avec des taux d'intérêt qui vont retrouver, on va quand même effectivement comprendre que oui, le risque ça a un prix, le temps ça a un prix,
oui. Et voilà, on revient à la normale
et on revient à un monde plus normal après des chocs d'une violence terrible.
Léa, on parlait tout à l'heure avant l'émission et vous dites justement ce scénario qui est un peu le scénario rose qu'on a, c'est-à-dire de dire on a du conjoncturel, ça va se calmer et puis finalement on n'est pas loin de la crête des taux d'intérêt, des taux d'inflation et les taux d'intérêt n'auront pas besoin d'être poussés plus haut. Et vous dites, non, ouais, moi j'ai quand même peur que ça aille beaucoup plus loin qu'on l'anticipe et qu'on s'arrêtera pas à 4 aux États-Unis mais peut-être à 6.
Ouais, j'y crois pas trop moi effectivement. Alors, n'étant pas économiste, je donnerai pas des seuils aussi précis. En revanche, j'aime bien cette image en escalier, c'est-à-dire qu'effectivement des chocs, on les passe, mais moi je trouve que l'inflation, quand j'écoute les entreprises, elle est beaucoup plus structurelle qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'on parle des grands chiffres qui sont utilisés traditionnellement, mais si vous écoutez sur la logistique, sur l'approvisionnement en certaines matières premières, mais pas forcément énergétiques,
tout ça s'améliore.
Mais il va y avoir des tensions. La Chine n'est pas réouverte, ils le disent très clairement. On n'a pas une économie qui est celle qu'elle était avant le Covid. On a une accélération de la croissance dans les pays émergents qui amène énormément de demandes sur des biens de consommation où il y a derrière des matières premières en stress, y compris alimentaires, ça c'est le fruit de la géopolitique, mais que ce soit des matériaux de base ou même, je pense aux pneus, Michelin par exemple, c'est extrêmement
intéressant.
Donc vous,
les remontées que vous avez des entreprises, c'est qu'on n'est pas du tout au pic d'inflation.
Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a les salaires, et ça y est, les salaires c'est bien enclenché, et toutes les négociations salariales qu'on voit en Europe, on ne va pas baisser les salaires dans 6 mois. Hein. Ça y est, on passe des hausses de salaire à 5, 10, 15, j'ai même vu 22% dans certaines entreprises anglo-saxonnes.
C'est cette idée qu'on est, on est devant nous face à une espèce de mur, il faut bien le dire. C'est-à-dire que le mur entre la situation des entreprises qui va se dégrader au moment où les revendications salariales vont atteindre leur sommet, parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que vous regardez tous les indicateurs sur la trésorerie, etc. En fait, les salariés, c'est très clair, vu les tensions sur le marché du travail et vu tout ce qu'on entend sur les surprofits, etc., ils sont convaincus que les entreprises sont gavées d'argent. Mais les revendications vont culminer à un moment où, finalement, l'argent, il sera plus vraiment là. Et ça, moi j'ai peur beaucoup, en fait, de cet hiver. Voilà. Pour moi, il y a un énorme mur devant nous cet hiver. Et après, je suis pas pessimiste.
Léa, très rapidement.
J'ajoute un point rapidement qui est très intéressant quand on écoute les entreprises, c'est qu'elles sont effectivement en stress financier. Elles sont en stress également du fait de l'énergie. Et la plupart ne sont pas en train de se demander comment elles vont produire demain. Elles sont en train de se dire qu'elles vont fermer pour des questions de qualité bilancielle. C'est-à-dire que là aussi, le stress sur l'approvisionnement que j'évoque dans tout un tas de secteurs, on va le voir parce qu'on est en train de perdre des acteurs. C'est la grande crainte en Allemagne d'ailleurs.
Romain, est-ce que c'est une situation, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une situation qu'on a déjà vue? Alors, c'est des situations qu'on a déjà vues par petits morceaux, mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un tel réajustement en termes de taux d'intérêt, en passant d'une aberration, qui était ces taux à zéro négatifs, à des taux qui maintenant paraissent normaux, mais qu'ils ne paraissaient pas il y a encore 6 mois. Est-ce que vous avez déjà des références historiques sur ce type de choses? Et qu'est-ce que ça vous inspire, cet environnement, et notamment les entreprises avec lesquelles vous, dans lesquelles vous investissez?
Alors, je vais répondre directement à votre question. C'est-à-dire, vous avez un truc, on craque, les gens sont tous inquiets. Mais en fait, si on regarde ce qui se passe en bourse, hein, au niveau des marchés des actions, les marchés des actions ont perdu 20% par rapport à leur plus haut, qui était un plus haut historique. Et ils sont revenus au niveau de fin 2019, en général. Alors, je parle des marchés des actions, hein, pas des marchés des taux. Et donc, on a effacé la hausse post-Covid. Et on est retourné sur le CAC, sur le Standard & Poor's.
Alors, vous allez encore plus loin, vous dites, même les marchés, c'est normal.
Je veux dire, la baisse de 20% des actions par rapport à un plus haut historique, c'est pas grand-chose. Vous voyez, vous me dites, historiquement, est-ce qu'on a connu... Moi, là où je suis surpris, et où on dit déjà depuis quelques trimestres chez Moneta, on est étonné de l'ampleur des problèmes dont vous avez tous parlé, et de, finalement, la très bonne résistance du marché des actions dans son ensemble.
Et donc, c'est tout
ça qui m'étonne.
Du coup, vous l'expliquez comment?
J'explique par peut-être une forme d'accoutumance à des drames. Ça veut dire, on est depuis 10 ans globalement dans une croissance des marchés. On a eu plein d'avertissements qui finalement étaient de faux avertissements. Vous vous souvenez, le Brexit, les marchés sont effondrés. Trump, les marchés sont effondrés. Crainte de ralentissement en Chine depuis maintenant au moins 2018, on a cette idée-là. Covid, les marchés sont effondrés. Et chaque fois, c'est reparti. Donc on a beaucoup d'acteurs.
C'est reparti plus fort.
C'est reparti plus fort au et niveau de la hausse du marché et plus haut. Et donc moi il y a beaucoup d'acteurs qui sont finalement habitués à dire il y a les banques centrales qui vont pouvoir. Aujourd'hui on voit que les banques centrales elles savent plus quoi faire parce qu'elles jouent leur crédibilité. Elles ont laissé partir l'inflation.
Elles l'ont perdu leur. Enfin excusez-moi.
Alors, elles essaient d'arriver.
Déjà perdu parce que leur absence de réaction et leur retard à l'allumage est dramatique.
Alors elles veulent le rattraper. Hein. Le discours de Jackson Hole était quand même un discours extrêmement bien ciselé, bien construit, très court. Sans échappatoire. Hein. Moi, je l'ai relu plusieurs fois. C'était vraiment un discours qui annonçait...
Le programme. On a le programme des prochains mois.
Il faut ralentir la demande, il faut ralentir l'économie. Ouais. Donc, les banques centrales ne vont pas s'arrêter parce que l'économie va ralentir. Elles vont s'arrêter quand elles auront atteint leur objectif de casser l'inflation.
Mais là, Romain, parce que vous rigoliez tout à l'heure quand on parlait des années 80. Là, on est... Si les banques centrales disent on monte l'inflation jusqu'à casser la demande et la croissance, je suis désolé, mais ça veut dire qu'il vous faut des taux d'intérêt réels qui soient au moins de 4-5%. Et si vous voulez des taux d'intérêt réels qui soient au moins de 4-5%, je n'ose pas prononcer les chiffres auxquels il faudrait amener les taux directeurs des banques centrales.
C'est ce que dit Léa, mais c'est pas ce que vous dites, Romain.
Moi, je me prononce pas sur les taux d'intérêt, mais je vois que l'environnement est un environnement aujourd'hui dangereux et qu'effectivement, il n'y a pas de sortie facile. Parce que soit la sortie, c'est dire on s'accommode de l'inflation et on tombe dans un environnement qui est un environnement qu'on...
Ça, clairement non.
A priori, aujourd'hui, c'est non.
C'est non.
Hein, et donc, on va vers un choc et puis après, on verra comment c'est géré. Mais on est dans des acteurs qui sont des acteurs assez endettés. Et donc, c'est un environnement qui est effectivement délicat.
Allez, juste, on va parler marché tout à l'heure. Je ne veux pas dévoiler vos anticipations, mais ça veut dire que si vous considérez que finalement, malgré tous les chocs, les marchés ont peu baissé, ça veut dire que vous considérez qu'ils peuvent encore baisser.
Oui, il y a un risque important qui baisse encore.
Il y a un risque important qui baisse encore. Super. Alors, ça commence fort. Allez, on va passer tout de suite à la question de la semaine qui est liée à ce qu'on vient de dire.